Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans l'évangile d'aujourd'hui, notre Seigneur nous met en garde contre les loups rapaces. Ah, c'est vrai, oui, que nos politiques, nos écolos à la gomme, nous réintroduisent les loups. Je ne sais pas ce que ça sera dans 10 ou 20 ans, mais vous savez, ça peut peut-être être là. C'est comme les chiens, on est porté de 4 ou 5. Alors, pour l'instant, on se promène tranquille, le soir, là, on regarde les étoiles, la vie est belle, bah, peut-être plus dans 10 ans, on aurait une meute de loups qui nous sauterait dessus. Bref, je dirais ces loups-là, il y a encore moyen de les apprivoiser. Il paraît qu'il y en a qui arrivent à des petits... Loupinot, là, louveteau. Bon, vous leur donnez le biberon, vous les caressez, vous arrivez à en faire une espèce de compagnon, fidèle. Mais les loups dont nous parle notre Seigneur dans l'Évangile, c'est autre chose. Il y a toute la malice de l'enfer. Ce sont des infiltrés. Ce sont de faux pasteurs qui sont là pour perdre les âmes. Certains, tout à fait consciemment, d'autres, probablement, en conséquence de nombreux péchés de leur part, sont tombés dans l'aveuglement total, et donc ne voient pas qu'ils font l'œuvre du diable. Mais, jour après jour, ils font véritablement l'œuvre. Il faut faire la distinction entre les mauvais pasteurs, je ne parlais pas des bons pasteurs, mais l'idéal ce serait d'avoir que des bons pasteurs, mais je n'ai pas la prétention de vous dire je suis un bon pasteur. Je suis un misérable qui a besoin de vos bonnes prières. Donc la distinction entre les mauvais pasteurs et parce que les conséquences vont être différentes, et les faux pasteurs. Au temps de notre Seigneur, il y avait des mauvais pasteurs. Toute la clique qui gravitait autour de Anne et Caïphe, les grands prêtres de l'époque, c'était l'Église de l'époque. Rien à voir avec l'Église catholique d'aujourd'hui, mais c'était l'Église de l'Ancien Testament qui avait été voulue par le bon Dieu. Elle avait été établie après des règles bien précises, la loi de Moïse, tout ça, le temple de Jérusalem, les sacrifices, tout. Seulement, ces pasteurs, en tout cas à l'époque de notre Seigneur, étaient tombés dans l'aveuglement. On sait bien que les Juifs sont très intéressés par l'argent, mais pour les Juifs. Je pense que certains de nos chrétiens aussi, voilà, aiment bien les sous, et les autres pareil, quelles que soient les religions, athées ou catholiques, francs-maçons, tout le monde n'est pas, personne je dirais, est indifférent à l'argent. Alors, les juifs, ça c'est leur préfet. Hein. Et donc c'était très affairé pour toutes ces histoires de pouvoir, et derrière le pouvoir, évidemment, il y a l'argent. La religion, malheureusement, était pour certains comme une couverture, si vous voulez. Leur préoccupation essentielle, c'était dominer le peuple, et puis soumettre, un petit peu comme des esclaves, les autres peuples, qui étaient des non-juifs, à traiter comme des non-juifs, bien sûr, vous savez ce que ça veut dire. Mais c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, ils n'ont pas compris. Ils étaient dans l'aveuglement, ils étaient, pas tous, je ne dis pas à 100%, mais beaucoup d'entre eux, étaient dans l'aveuglement à cause de leur méchanceté, mauvais, et n'ont pas compris l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Un enseignement d'amour, de miséricorde, de pardon, de sacrifice. Non. Eux, c'était resté œil pour œil, dent pour dent. Et donc, ils étaient des vrais pasteurs, et ils se comportaient mal. Ils pensaient mal, ils agissaient mal. Le peuple, d'ailleurs, n'était pas dupe. Il se rendait bien compte. Mais vous voyez, notre Seigneur, quand il a guéri, par exemple, les lépreux, il a dit, allez vous montrer aux prêtres. C'est-à-dire que c'était bien l'Église de l'époque, l'Église, je veux dire, finissante, puisqu'avec la mort de notre Seigneur, ça va être la naissance de la nouvelle économie du salut, la nouvelle Église, l'Église catholique, l'Église chrétienne. Mais à l'époque, c'était de vrais pasteurs, des mauvais pasteurs, qui ne conduisaient pas les âmes à la perfection, à la sainteté. Certes, ils prêchaient, mais ils se comportaient mal. Et l'exemple est très important. L'exemple des prêtres, l'exemple des religieux, des religieuses, l'exemple des parents, l'exemple des grands frères, des grandes sœurs. Vous savez qu'on aura des comptes à rendre au bon Dieu. Pas simplement si vous avez fait ceci ou fait cela, mais l'exemple, le scandale qu'on aura répandu par notre mauvaise conduite et qui aura peut-être détourné des âmes de la conversion, ça nous a demandé des comptes, ce genre de choses. Au cours de l'histoire de l'Église catholique, il y aura tout. Il y aura de saints pasteurs, il y aura de piètres pasteurs, de mauvais pasteurs, et puis il y aura des mercenaires, des faux pasteurs. Quand il y a eu des schismes, par exemple, alors, les schismes les plus anciens, c'était le tout premier siècle, quatrième siècle, septième siècle, après vous avez tout l'Est, tout l'Orient, 11e siècle, par là, ils ont conservé quand même le sacerdoce. Ils sont partis avec le Seigneur dans leur prison, si vous voulez. Car notre Seigneur, dans les tabernacles des schismatiques, il est réellement présent, mais il n'est pas prisonnier de l'amour, il est prisonnier du schisme, là, véritablement. Et comme ils n'ont pas changé les ordinations sacerdotales, les sacres épiscopaux, les baptêmes sont valides, confirmations sont valides, absolution sacramentelle au moins in articulo mortis, c'est sûr, et très probablement autrement aussi, par bienveillance, concession de l'Église, comme on dit dans notre jargon, per actum, les mariages, s'il n'y a pas de mauvaises intentions de leur part, mais là encore, il faut faire attention chez les orientaux, le divorce est admis, dans certains secteurs orientaux, et le remariage. Ça, c'est pas possible. Dans l'Église catholique, si le mariage est valide, il n'y a que la mort qui va rompre le lien, et pas le divorce. Mon extrémation aussi valide chez eux. Donc il y a des moyens de sanctification. Et pourtant, ce sont des mercenaires, car ils ne sont pas dans la véritable Église. Et il nous est absolument interdit d'aller dans les églises schismatiques orientales. Notre époque a vu, après la Révolution française, a préparé le terrain, la Révolution française, les droits de l'homme, c'est beau tout ça, pour les gogos. Et puis, quand les mentalités étaient bien prêtes, le Concile Vatican II, où là, on avait encore des prêtres valides. Concile Vatican II, tout était valide au niveau du sacerdoce. Les paroisses, à part quelques fantaisies d'un uberlu comme ça, mais autrement, toutes les messes étaient valides dans les paroisses au Concile Vatican II. Les évêques étaient authentiquement évêques, ils avaient reçu le sacre épiscopal, dans le rite bimillénaire de l'Église. Et pourtant, parmi tout ce clergé, il y avait un certain nombre de mauvais pasteurs. Ils avaient avalé le venin de la Révolution. Et pour nous, on bondit nos chaises quand on entend liberté, égalité, fraternité, les droits de l'homme. On répond, mais alors, et les droits de Dieu? Ça ne passe pas avant les droits de l'homme. Hein. Mais eux, ben non, ils étaient déjà bien formatés pour le Concile Vatican II, avant le Concile Vatican II. Et puis, ils en avaient assez, vous comprenez, de passer des heures au confessionnal. Ici, on va se plaindre quand même comme une chapelle traditionnelle. Hein. On est un certain nombre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les paroisses, autrefois les anciens, vous avez connu, bon, c'est vrai qu'il y avait du clergé, mais vous aviez des paroisses, même en campagne, de 2000, 3000 paroissiens. Ah, tout le monde n'avait pas la même ferveur, c'est sûr. Il y avait quand même beaucoup de communion, hein. Là, imaginez que, bon, vous êtes là, ça, 120, je ne sais pas, 520. Mais si vous étiez 1500 ou 2000, le pauvre Abbé Roger, pour donner la communion, non, il tomberait, hein, il n'en pourrait plus. Bah, oui, bah, les vieux curés marchaient jusqu'à la fin, jusqu'à l'extinction des feux. Alors là, on leur devient un premier vicaire, un deuxième vicaire, tout ça. Mais ceux qui avaient la foi, ceux qui aimaient vraiment le bon Dieu qui aimait les âmes, ils se sacrifiaient pour la vérité et pour les âmes. Mais ceux qui n'avaient pas cet amour du bon Dieu, ceux qui avaient déjà été gangrénés par l'esprit révolutionnaire, ils n'en pouvaient plus. Et quand le Vatican II va dire, allez, les femmes, hop là, vous allez prendre le ciboire, vous allez dans la communion. Quelle aubaine! Oh, si les femmes pouvaient confesser, si les femmes pouvaient dire la messe, hein, on resterait peinard, dans notre fauteuil, une bouteille de bière, on sait plus, hein, on contrôlerait. Pour beaucoup, Vatican II, ceux qui étaient des mauvais pasteurs, a été une libération. Et les heures au confessionnal, quand vous avez une paroisse de 2000 ou 3000 chrétiens, alors évidemment, oui, ils n'ont pas se confessé tous les 8 jours. Hein. Il y en a qui se confessaient pour les grandes fêtes. Quand même, pas communion à Noël, pas éventuellement l'Assomption. Donc il y avait des centaines. La queue leu-leu, là, attendre au conseil, bon, il y avait des propres quand même. Mais, vous savez, ceux qui n'avaient pas vraiment l'amour du bon Dieu, foi en leur sacerdoce, ils n'en pouvaient plus. Ils avaient vraiment le désir que tout ça, ça change. Hein. Bon. Alors oui, il y avait des mauvais pasteurs. Et pourtant, c'était encore l'Église, avec des sacrements valides, avec des prédications à peu près. Ça dépend des prêtres. Enfin, on avait encore le loisir d'aller dans la paroisse d'à côté où le vicaire ou le curé prêchait davantage les vérités du salut. Changement de décor après Vatican II, avec Vatican II. On ne va plus avoir des mauvais pasteurs, on va avoir des faux pasteurs, des lourds ravisseurs. Il va y avoir une période intermédiaire. Ils ont encore le vrai sacerdoce. Ils ont été ordonnés avant 1968. Donc, c'est le rite traditionnel de l'Église. Ils sont prêtres. Et vous ne pouvez pas leur enlever le sacerdoce. Ils ont beau vouloir, il y en a beaucoup qu'on les froquait. Oh là là là. Quelle abomination. Ils sont prêtres pour l'éternité. C'est comme vous, vous êtes baptisés. Vous pouvez aller trouver le curé de votre paroisse de baptême et dire, non, vous me gommez ça, moi je change de religion. La gomme blanco n'y fera rien du tout. Vous serez toujours chrétien. Vous aurez toujours imprimé dans votre âme le caractère de baptisé, si vous êtes confirmé, soldat du Christ, et ceux qui sont prêtres ou l'évêque. Eh bien, ça sera pareil. Alors, tout en appliquant les directives d'une autre religion, la religion de Vatican II, hein, partout, la liberté religieuse, l'œcuménisme, toutes les religions sont bonnes, le Saint-Esprit souffle chez les protestants comme chez les, hein, chez les juifs, et tout, voilà. Tout ça, des boniments issus de l'enfer, devient l'enfer. Et puis ça, ça triomphait à Vatican II. Là, ça, ça va être peu à peu dans l'enseignement dans les paroisses à Vatican II. Quelle devait être l'attitude des chrétiens en conformité avec ce que notre Seigneur nous dit dans l'Évangile? Il fallait fuir ces paroisses et ces faux pasteurs, passer à l'ennemi. Alors, certains l'ont compris tout de suite, d'autres l'ont compris un peu après, bref. Mais en tout cas, à terme, si on veut être sauvé, il ne faut pas rester entre les griffes des loups ravisseurs. Car après 1568, les choses vont encore s'aggraver, c'est que le sacerdoce et l'épiscopat vont devenir invalides. Ce ne sont pas des petits changements quelconques. Vous savez, on n'a pas, avec la Vatican II, affaire à des amateurs. Ils n'ont pas du tout, si on changeait ça, non, non, ça c'est les femmes, ils ont une idée comme ça, tiens, si je mettais une fleur là-dedans, ah, ça ferait joli, pas, ah, ouais. Non, non, c'est pas comme ça les francs-maçons, hein. Ils cogitent, c'est la destruction, c'est l'œuvre du diable. Donc, s'ils changent un mot, ils ont longuement réfléchi avant, ils savent pourquoi ils changent ce mot. Et donc, il ne s'agit pas d'une histoire de barrette ou de couleur d'ornement, non, 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 alors que, bien sûr, c'est une importance, évidemment, hein, mais pas pour la validité. Si je dis la messe sans barrette, la fraternité Saint-Denis, par exemple, il ne célèbre pas la messe avec la barrette. Ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils se prétendent être des religieux. En tout cas, avant Vatican II, la barrette était obligatoire. Absolument obligatoire. Voilà. Mais ça ne va pas changer la validité de la messe. Voilà. Les prêtres ont des fantaisies, les comédies. Bon, là, c'est le sermon, il n'est pas le manipule. Hein. Mais pour la messe, il doit y avoir le manipule. Le prêtre, toujours, pas le manipule. J'ai connu certains prêtres qui disaient casse les pieds, est-ce que je vais verser le calice, ça frotte sur. Il faut faire attention, c'est sûr. On peut frotter avec le manipule sur le corporal. Sur le corporal, il peut y avoir des parcelles de notre Seigneur. Donc il faut faire attention. Alors les prêtres disent casse les pieds, faire attention. C'est pas essentiel, allez, je veux pas. Je dis la messe sans manipule. C'est pas bien. C'est une faute de la part du prêtre. Si l'Église me prescrit, il faut manipuler. Mais ça ne va pas rendre la Sainte Messe invalide. Par contre, si au lieu de dire la formule de consécration, hoc enim corpus meum, je dis, je crois, fantaisie comme ça, corpus Christi, simplement, corpus Christi. Il n'y a pas la consécration. Il n'y a pas de consécration. C'est pas la formule. Pourtant, ça ressemble un petit peu. J'ai quand même dit le corps de Christ. Oui, mais c'est pas ça la formule. Donc attention, ce qui est la substance du sacrement, il ne faut pas y toucher. Aucun prêtre, aucun évêque, aucun pape, l'Église n'a pas de pouvoir là-dessus. Ça vient directement du Christ. On ne peut pas changer ces choses-là. Mais la matière. Si un prêtre n'aime pas le vin, préfère le jus de fruits, le coca, ce que vous voulez, peu importe, il ne peut pas prendre autre chose que du vin pour célébrer la Sainte Messe validement. Alors ils ont changé. Ils ont changé au niveau de l'ordination sacerdotale du sacre épiscopal au niveau de la substance, pas des à côté, hein, pas des histoires, je dis, de barrettes colorées d'un moment, c'était vraiment la substance. Ce qui fait que, au minimum, le sacerdoce de Vatican II, 68, et l'épiscopat, est gravement douteux. Et en réalité, l'Église nous dit, parce qu'il faut être sûr, elle est plus sûre, qu'on doit le considérer comme invalide. ceux qui enseignaient déjà ce nouvel évangile, cette nouvelle religion de Vatican II, qui était un désastre, en plus, à partir de 68, sont de simples laïcs, sont pas ordonnés, validement. Donc c'est d'autant plus, si vous voulez, des lourds aviseurs, qu'ils en soient conscients ou pas. Ça, c'est un autre problème. Le vendu les jugera en fonction de leur connaissance, de leur spiritualité. Hein. Mais la réalité, c'est que ce sont des faux pasteurs et que les pauvres fidèles qui sont entre les griffes de ces pauvres faux pasteurs, eh bien, sont dans une fausse religion, une fausse église, qui n'est pas l'église du salut. Et qu'ils auront plus grandes difficultés pour sauver leur âme. C'est pas pour rien que le Christ a fondé son église, avec son sacerdoce et ses sacrements. Faut pas en sortir. Mais là, voyez-vous, dans l'évangile que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, ben, il faut bien évaluer la situation actuelle. C'est l'œuvre du diable. Il y en a qui n'aiment pas, tant pis pour eux. La Salette nous a dit, l'Église sera éclipsée. Rome perdra la foi. Rome deviendra le siège de l'Antéchrist. Bon. On a envie d'être dans cette barque-là. Enfin, ça crève les yeux aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de faire la route théologique pour en se rendre compte que cet individu qui s'appelait François à Rome, pas catholique. Pas besoin d'attendre, c'est notoire qu'il est hérétique. Notoire. Enfin, alors, c'est sûr qu'un jour, quand l'Église sera restaurée de façon miraculeuse, c'est pas nous qui allons sauver l'Église, hein. C'est le Christ qui remettra son Église sur pied. Un jour, lui, là, il aura sa condamnation en bonne et due forme, ça c'est certain. Mais aujourd'hui, enfin, c'est évident, il n'est pas catholique. Il n'a pas la même foi que nous. Il nous combat, il combat la messe. Il ne veut pas de la messe. Même les conservateurs, vous savez, parce que si vous allez en Italie du Sud, vous allez en Espagne, ben, vous verrez autre chose que si vous allez dans les diocèses de France, hein, sauf à Val. Hein. Monseigneur Santène à Val. On met encore les dentelles et puis un petit peu de latin et des conservateurs. Mais autrement, dans certains diocèses du sud de l'Italie, vous avez les soutanes, les surplis anciens, avec la dentelle et tout, les barrettes et tout. Même ça, il ne peut pas le supporter. Il ne supporte rien de catholique, parce qu'il n'est pas catholique. Alors, imaginez, être en communion avec cette fausse église, avec ces faux pasteurs, c'est effrayant. Il n'y en a qui ne voient pas. Il n'y en a qui ne voient pas. Ne fréquentez pas les groupements qui sont pleinement ralliés à cette fausse église. Je suis désolé de vous le dire, mais les fraternités Saint-Pierre et compagnie, il ne faut pas les suivre. Alors peut-être qu'il y a des ecclésiastiques qui sont pieux, qui sont mortifiés, mais ils n'ont pas le sacerdoce, puisqu'ils veulent être complètement avec cette église de Jean-Paul II et de François, eh bien, les évêques et les ordonnances, ce sont les faux évêques de Vatican II. Ils n'ont pas l'épiscopat, comme on voyait, qui leur donne validement. Donc ceux qui vont dans ce genre de chapelle, pour recevoir le sacrement, ils ne reçoivent rien de valide. En tout cas, pas le Saint-Sacrement de la messe, pas l'absolution, pas l'extrême-onction. Et puis en plus, ils se mettent en communion. Parce que, je rappelle quand même que unatum, ça veut dire en union avec. Ils se mettent en communion avec cette fausse église, ces faux pasteurs, ces lourds ravisseurs. Après, il y a d'autres organisations que je ne citerai pas par gentillesse ou délicatesse, bon, où c'est valide. C'est valide. Il y a le Saint-Sacrifice de la messe. Mais, il y a toujours le problème de Monaco. Et même ceux qui sont les plus proches de nous, qui ne sont pas trop méchants avec nous. Il faut qu'on appelle la résistance, là. Hein? Eh bien, eux non plus butent sur ce problème-là. Harry Kirabou, les Rouges, François, tout ce qui est moderniste, avec le bazooka, mais au canon de la messe, Unaku, Francisco. Est-ce que on peut être en communion avec le grand rabbin, le grand moufti? Moi, je ne vois pas la différence entre le grand rabbin, le grand moufti et François. Alors, prier pour, mais ça, c'est autre chose, c'est une autre notion. On n'est pas contre. Je ne suis pas contre. On peut bien dire, si vous voulez, que je me sens pas hérétique ou abominable si on dit une dizaine de chapelets ensemble pour la conversion de François ou du grand moufti. Mais jamais de la vie, enfin moi vivant, à la Sainte-Messe, ici à l'hôtel, il y aura un prêtre qui nommera un faux pasteur, un hérétique, un schismatique au canon de la messe. Et je comprends la rigueur des fidèles qui ne peuvent croire en conscience assister à une messe au canon. Je ne condamne pas, je n'excommunie pas, je ne tire pas boulet rouge sur ceux qui n'ont pas compris, qui n'ont pas la même perception des choses, mais je comprends tout à fait que c'est clair. Si on est en communion avec le Christ, on n'est pas en communion avec l'Antichrist. On ne mange pas tous les renteliers. Ah oui. Alors, eh bien, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la situation où nous sommes aujourd'hui, eh bien, il faut faire cette distinction entre les faux pasteurs, les mauvais pasteurs, les pasteurs qui n'ont pas tout compris, mais qui ne sont pas forcément de mauvais pasteurs. Et il y a vraiment des endroits où un catholique ne doit pas mettre les pieds. Même si vous avez tout le décor, vous avez les grandes orgues, un orgue électronique, si mal que ça, vous avez des églises, des orgues splendides, tout ça, une chorale magnifique, pléthore d'enfants du cœur, tout ça, des militaires, ça fait bien des militaires, tout le gratin de Rennes. Ben, si c'est pour avoir une messe invalide, si c'est pour avoir une messe Unaku, merci. Vaut mieux aller dans nos petites chapelles, qui sont méprisées du monde. On passe aux yeux du monde pour des arriérés, des schismatiques et tout ce que vous voulez. Laissez dire le monde. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que notre Seigneur va nous dire quand on va se présenter devant lui. Le témoignage de la foi. La droiture que nous avons. Et c'est vrai qu'il en coûte. Quand on doit se déplacer, vous devez, c'est les vacances, là, vous devez partir voir la belle-mère à Monaco, ou je ne sais pas où. Bon, où est-ce qu'on va la messe? Peut-être vous n'aurez pas la messe. Parce que vous ne voulez pas offenser le bon Dieu, vous voulez offrir au bon Dieu, comme on dit, comme disait le Père Gabriel, l'oblation munda, le sacrifice pur et sans tâche. Donc, quelquefois, on sera obligé, oui, de se priver du Saint-Sacrifice de la messe. Ou, au minimum, de se priver de la communion parce que on n'est pas en accord total avec la célébration qui est faite. Donc, tenons compte des avertissements que nous a donné notre Seigneur et méfions-nous de ces faux pasteurs. Prions pour leur conversion, mais n'ayons aucune part avec cette fausse église de Vatican II. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, si je vous dis.